avant de parler des vertus morales, donc il me semble important de resituer ben, le mystère de l'homme. Et comme je vous le disais aussi hier, il est évident que ben, sur la conception que nous avons de l'homme, ben, l'évangile concerne d'abord la révélation sur le mystère même de Dieu, mais nous savons aussi que Dieu veut nous faire participer à sa vie, et cette participation ben, suppose que nous sachions qui est l'homme. Voilà, c'est donc un petit peu la question que nous allons nous poser ce matin. Et puis, cet après-midi, nous verrons, puisqu'on va parler des vertus, je vais vous dire un petit mot des vertus théologales, même si c'est pas par la suite, on poursuivra une réflexion surtout sur les vertus morales. Voilà, le premier point, ben, c'est tout simple, je vous l'ai déjà donné hier, hein, c'est que Dieu nous a créés pour le bonheur. Spontanément, quand on y réfléchit un petit peu, ben, toutes nos actions hein, sont azimutées, sont finalisées par cette recherche de bonheur, hein, qui n'est pas simplement la satisfaction d'un besoin ou d'un projet. On a tous fait cette expérience, ben, d'une part, qu'on peut échouer dans nos projets. Et même quand on a atteint, ça peut arriver, il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à atteindre des ambitions très hautes, ben on sait très bien qu'après la satisfaction et le plaisir que l'on ressent à avoir obtenu quelque chose, et surtout si ce quelque chose est difficile, eh bien, il peut aussi y avoir un sentiment de frustration. Hein, comme pour nous dire, ben oui, c'est bien, ben voilà, on peut se rêver le destin d'un Napoléon ou d'un Jules César ou d'un Alexandre le Grand. Bon, mais même une fois que tu as eu tout ça, d'abord, tu as pu passer à côté d'autres réalités peut-être moins glorieuses et rayonnantes, mais tout aussi importantes pour le cœur de l'homme. Et ensuite, bah, que demeure toujours cette insatisfaction. Et c'est une des raisons qui explique que bah, le toujours plus hein, des grands personnages qui habitent notre histoire, mais voilà, qu'il y a cette insatisfaction, et encore une fois, qui est une insatisfaction qui ne traduit pas une faille dans la psychologie, mais qui traduit ce besoin, hein, cette recherche d'infini qui habite notre cœur depuis notre apparition dans le monde. Et donc il y a une sorte de toujours plus, en ce sens où rien sur cette terre, et cela manifeste aussi notre liberté, mais rien sur cette terre ne peut satisfaire notre cœur, ne peut satisfaire les désirs infinis de notre cœur. Hein, comme dit une des prières composées par le père de Grand Maison, un spirituel jésuite. Hein, je pense que cette prière, « Ô Vierge Marie, obtenez-moi un cœur ». Et la dernière phrase, c'est « Obtenez-moi un cœur blessé dont la blessure ne se guérisse qu'au ciel hein, ». Comme pour bien signifier que, voilà, il n'y a qu'en Dieu que nous trouverons notre complétude. Voilà, donc ça, c'est à propos de la fin, de la finalité, de ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire la communion avec l'infini. Une deuxième étape, un deuxième point, ben c'est justement de voir quel est le processus de l'homme, hein, quel est le chemin qu'il est invité à parcourir depuis sa conception jusqu'à la résurrection bienheureuse. Donc, vous voyez qu'on se donne une amplitude assez grande pour le sujet qui nous occupe. Peut-être nous rappeler justement que, ben, à l'origine, en tout cas dès la création, hein, si vous prenez un petit homme et un petit singe, c'est plutôt le petit singe qui s'en sort le mieux, hein, parce qu'instinctivement, il est beaucoup mieux équipé que le petit homme. En revanche, l'enfant, c'est le signe ben, qu'il est pure potentialité, qu'il y a en lui des virtualités, des capacités, qui, et ça on le verra tout à l'heure, enfin c'est très important quand on parlera justement des vertus, qui ne demandent qu'à s'épanouir, mais si elles ne sont pas suscitées, si elles ne sont pas excitées, si elles ne sont pas éduquées, eh bien elles restent en l'homme de manière incoative, de manière potentielle, sans jamais parvenir à leur développement. Autrement dit, l'enfant est vraiment pure potentialité, il est, comme on dit, sujet d'éducation, alors que l'animal, lui, est sujet de dressage. Alors, dans les limites de ses instincts et de sa nature, on peut lui apprendre aussi un certain nombre de choses, mais l'éducation, c'est effectivement bien autre chose. Ce qu'on découvre aussi, c'est que au point de départ, eh bien, l'homme est un être de désir. Autrement dit, il est porté à posséder le bien qu'il considère. Autrement dit, spontanément, il y a comme une spontanéité de l'être humain vers ce qu'il pressent, alors de manière très 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 brute, hein, très très primaire, mais ce qu'il ressent comme un bien pour lui. Alors ça commence de façon très simple, c'est la chaleur de la présence de sa mère, c'est le lait maternel, mais il sait instinctivement que cela est bon pour lui. Il y a comme un réflexe de survie dans le tout petit enfant, de manière spontanée, qui le pousse à rechercher ce qui lui est profitable. Alors effectivement, ça c'est pour les premiers jours, voire les premiers mois, voire les premières années, mais petit à petit, l'enfant est appelé, et là c'est l'objet de l'éducation, mais à affiner ses désirs. Donc ce désir qui le porte, il est, ou ses besoins hein, qui le portent, qui le constituent, sont appelés à s'affiner, et donc d'aller au-delà du désir de ce qui lui permet de survivre. Bien sûr, ce qu'il cherche encore une fois, c'est la nourriture, la boisson, la chaleur. Mais petit à petit, il découvre qu'il y a quelque chose de plus important que la simple satisfaction de ses besoins fondamentaux. Ne serait-ce d'abord que l'expérience aussi, une expérience de base, hein, qui est l'affection et la présence d'abord de sa mère, puis de tous ceux qui l'entourent. Voilà pourquoi on dit que dans l'éducation d'un enfant, ce qui est très important dans les premiers temps, c'est effectivement de le sécuriser. Hein, qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent en paix. Et puis, si le processus de croissance se poursuit, on va dire, normalement, s'il fait l'expérience de l'affection et de la présence de ses proches, eh bien, petit à petit, spécialement au moment de l'adolescence, mais il va découvrir ce qu'on appelle les valeurs. Hein, c'est-à-dire qu'il est fait non seulement pour survivre en tant qu'individu, avec la puberté, il va aussi découvrir qu'il est apte à survivre en tant qu'espèce, hein, en tant qu'être humain. Et puis, mais il va aussi découvrir ce qu'on appelle les valeurs spirituelles, hein, c'est-à-dire que qui sont en fait des raisons de vivre. C'est ça qui donne sens à notre vie. Hein, si on nous dit, t'es juste sur terre sur terre, ta mission c'est de vivre le plus longtemps possible, hein, de survivre biologiquement le plus longtemps possible, c'est pas très exaltant comme vocation. En revanche, si on dit, tu es appelé à découvrir que ce qui te constitue avec la nourriture, c'est aussi la recherche du vrai, c'est la recherche du bien, c'est le sens de la justice. C'est comme ça, si je peux dire, qu'on accède à l'humanité. Mais vous voyez qu'en fait, le désir, le fondement est toujours le même, c'est-à-dire un désir. Alors, peu importe ce que l'on désire, en quelque sorte, on devient ce que l'on désire, mais que nous sommes des êtres qui sommes tournés vers l'extérieur. Nous sommes des êtres de désir. Et donc, nous sommes appelés aussi, d'une certaine façon, à dépasser notre nature dans le don de nous-mêmes. Et puis il y a aussi une autre réalité, alors là qui est une réalité. Comme je vous ai dit, je vais toujours essayer de distinguer ce que l'intelligence est capable de dégager à propos de tout ce que je vous dis, et puis de ce que l'intelligence aidée par la grâce peut dire. Mais il n'y a pas de contradiction. Ça c'est aussi très important. Alors là aussi pour parler des questions d'éthique, mais parfois quand l'Église intervient dans le débat à propos de la famille, à propos de la vie, à propos de ce qu'on appelle aussi sa doctrine sociale, très souvent, on pourra lui dire « Oui, mais ça, vous le dites parce que vous êtes croyant, ce qui est en soi très, très respectable, mais vous n'avez pas à l'imposer à ceux qui ne croient pas. » Alors, c'est un élément très, très, très essentiel de l'intervention des chrétiens dans le débat public, si je puis dire. C'est que ce que nous disons est justifiable en raison. Hein, parce que nous le disons selon ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, alors quand vous parlez de loi naturelle, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « oui, mais dans la nature, si on se réfère effectivement à la nature, compris de manière, je dirais, écologique, hein, oui, mais dans la nature, vous voyez bien, le lion, il mange l'agneau, les choses ne sont pas si bien que ça ». Non, en fait, quand on parle de morale naturelle, on veut dire qu'il est dans la nature de l'homme d'être raisonnable. Et donc, ce que l'Église dit à propos de la famille ou dans bien d'autres domaines est toujours justifiable en raison. Alors à la fois, ça nous permet un vrai dialogue avec ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, si je puis dire, c'est que ça nous oblige vraiment à réfléchir. Et à toujours essayer de justifier raisonnablement ce que nous disons. Et l'enjeu, c'est de montrer que c'est bon pour l'homme. Voilà, c'est ça les bases d'un dialogue véritable. Pour prendre un autre exemple à propos de la foi... Savoir que Dieu existe, il n'y a pas besoin d'être croyant pour ça, normalement. Normalement, une intelligence qui fonctionne à peu près normalement est capable d'arriver à la certitude que Dieu existe. D'ailleurs, saint Thomas d'Aquin a développé, mais fruit d'une longue histoire, ce qu'on appelle les preuves de l'existence de Dieu. Alors, c'est pas le terme de preuve, pas le terme de chemin, mais pour arriver à la certitude que Dieu existe, essentiellement, c'est un petit peu l'argument déjà de Voltaire, je ne peux pas croire que cette horloge n'est pas un horloger. Donc effectivement, quand on voit la création depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, dans sa rationalité, dans son organisation, dans tout ça, eh bien on peut conclure qu'il existe une intelligence infinie derrière tout ça. Ça, c'est ce que l'intelligence peut dévoiler à l'homme. En revanche, le mystère même de Dieu, savoir par exemple que Dieu est Trinité, ce qui est quand même le spécifique de la foi chrétienne, affirmer que la deuxième personne de la Trinité s'est fait homme dans le sein de la Vierge Marie, ça, on ne peut pas le prouver. Alors, ça ne veut pas dire que l'intelligence est inutile, mais l'intelligence, dans l'effort missionnaire, c'est de montrer que ce n'est pas absurde. Voilà. Par exemple, spécialement dans le dialogue avec les musulmans, on pourra leur montrer que certes, nous croyons comme eux en un Dieu unique, mais un Dieu unique en trois personnes. Et on peut leur montrer, alors évidemment, spontanément, on veut dire, oui, vous êtes des polythéistes, vous croyez en trois dieux. On peut leur dire non, le fait de croire que Dieu est unique en trois personnes, c'est-à-dire que l'unicité de Dieu n'empêche pas dans son mystère une certaine pluralité, même une pluralité certaine. Encore une fois, on ne peut pas le prouver, mais on peut prouver que ce n'est pas déraisonnable. Même si ça demande un petit peu de travail intellectuel et pas mal de prières, et chez l'autre, je dirais une certaine bonne foi. Voilà, il y a des tas d'autres réalités qui nous sont communiquées par la révélation. Encore une fois, on peut montrer que c'est pas déraisonnable, que c'est même dans le plan général de la sagesse de Dieu, ce qu'on pouvait faire de mieux, ce qu'on appelle l'argument de convenance, il convenait que cela soit ainsi, mais Dieu aurait pu agir tout à fait autrement. Voilà. Et c'est là où effectivement se situe toute notre liberté. Alors, il y a une vérité de foi, c'est que Dieu nous a créés, comme on dit, en grâce. C'est-à-dire que dès notre création, Dieu a voulu, et dès la création de l'homme, Dieu a voulu le faire participer à sa propre vie. Il veut, sachant que ce partage suppose le franchissement d'une distance infinie. Déjà, il y a une distance infinie entre la créature et le créateur. Et puis cette distance, elle a été mise à la puissance infinie, si je puis dire, à cause du péché. Entre Dieu, qui est la justice même, et nous-mêmes qui sommes pécheurs, si je puis dire, il y a une distance infiniment infinie. Ça veut donc dire que seul Dieu peut combler cette distance entre lui et nous. C'est d'ailleurs le principe même de la révélation, c'est Dieu qui fait le chemin vers nous. On peut dire que toutes les religions manifestent la recherche de Dieu par l'homme, et en ce sens c'est respectable, parce que justement il est dans la nature de l'homme de chercher l'infini et d'établir une communication avec cet infini si c'est possible. En revanche, le christianisme, lui, enfin le judéo-christianisme, manifeste Dieu qui prend l'initiative. Dès le premier péché, comme on va le voir dans un instant, dans l'histoire d'Abraham, dans l'histoire de Moïse, c'est toujours, dans les prophètes, c'est toujours Dieu qui prend l'initiative de rejoindre l'homme, avec ce sommet que représente le récit de l'Annonciation, où la Vierge Marie, même si elle avait le désir de se donner, de se consacrer totalement à Dieu, mais voilà, avant l'Annonciation, elle n'imaginait pas qu'elle serait appelée à cette vocation très particulière d'être la mère de Dieu. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative, même si Dieu suscite en nous aussi une réponse. Et tout le dessein de salut de Dieu était suspendu, si je puis dire, à la réponse de la Vierge Marie. Voilà, donc ça montre bien comment Dieu a l'initiative, mais comment la créature humaine est appelée à participer à son propre salut et au salut des autres, ce que la Vierge Marie a réalisé d'une manière parfaite. Donc Dieu nous a créés en grâce, et il faut croire aussi que s'il nous a fixé cette mission impossible, de le rejoindre, de participer à sa propre vie, Eh bien, selon la phrase de saint Augustin, Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est-à-dire qu'il nous donne les moyens d'accomplir des choses impossibles à notre nature. Et c'est justement ce que nous appelons la grâce. La grâce, c'est Dieu qui se communique, ou qui nous communique, qui nous donne les moyens d'accomplir une mission que nous ne pourrions pas accomplir si nous étions laissés à nos propres forces. Voilà. C'est pour ça que nous n'avons pas à nous décourager, parce que, encore une fois, les moyens nous sont donnés. Quand on lit l'Évangile, on peut être parfois un peu écrasé, quand on voit les exigences. Et d'ailleurs, c'est la perception que beaucoup de nos contemporains ont de l'Évangile. Ils vont dire, oui, ça définit un idéal très, très haut, très, très impressionnant, mais voilà, ça ne va pas plus loin. Ce que nous disons dans le christianisme, c'est que ce qui est dit dans l'Évangile, nous pouvons l'accomplir avec la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu nous est communiquée principalement, comme on va le voir, par les sacrements. Alors, effectivement, pour atteindre cette fin, ce but, qui est Dieu lui-même, qu'est-ce que nous avons à notre disposition ? Nous avons à notre disposition notre nature humaine. Qu'est-ce que la nature humaine ? Eh bien, elle se caractérise d'abord par l'existence en nous d'une intelligence et d'une volonté. Et donc, c'est par les... Et qu'est-ce qui nous permet de rejoindre notre finalité ? C'est par des actes. Nous atteignons la fin par des actes. Nous voulons réussir un concours. Eh bien, nous savons que nous aurons à mettre en œuvre, à poser un certain nombre d'actes, c'est-à-dire qu'il faudra acheter des livres, aller sur les bons sites, et puis surtout travailler et transpirer. Voilà. Si on veut construire une maison, hein, on a le but, on a la finalité de la maison, on sait exactement ce qu'on veut, et puis après, il faut concevoir les plans, il faut acheter des matériaux, et puis il faut construire cette maison. Voilà. C'est par des actes que nous atteignons la fin que nous nous proposons. C'est par notre activité. Et donc, la grande activité, la grande affaire de notre vie, c'est justement de parvenir à la vie éternelle. C'est ce que saint Ignace de Loyola dit au début de ses exercices spirituels. L'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur, et par là sauver son âme. Comment nous sauvons notre âme ? Comment nous parvenons au bonheur, tout simplement ? Eh bien, en louant, en respectant et en servant Dieu. Mais au début de tout, on pourrait mettre d'abord de connaître. On peut dire que connaître et servir, connaître et aimer, ce sont les deux grandes activités spirituelles de l'intelligence et de la volonté qui justement s'unissent pour permettre à l'homme d'agir, c'est-à-dire de poser des actions, des actes humains. Alors l'intelligence, qu'est-ce que c'est ? C'est l'intelligence qui nous donne de déchiffrer le monde qui nous entoure, de le comprendre. L'intelligence est une fenêtre ouvert sur la réalité, et c'est cette faculté, d'ailleurs quand on y réfléchit, c'est assez incroyable, si c'est très croyable, mais c'est assez admirable, de penser que d'une certaine façon, le monde, c'est-à-dire tout ce que je perçois, devient mien par le jeu de l'intelligence. L'intelligence est donc la capacité que notre esprit a de déchiffrer le monde qui nous entoure, de le comprendre, d'en saisir l'intelligibilité. Et la volonté, c'est l'autre grande faculté de l'esprit humain, c'est cette potentialité qui nous pousse à entrer en communion avec justement ce monde qui nous entoure, qui nous porte vers ce que l'intelligence nous montre comme étant intéressant, comme étant digne d'intérêt. Et tout cela, effectivement, ça forme un tout dynamique. Aimer, comprendre, être curieux, désirer, tout ça, c'est une réalité complexe, mais qui manifeste notre humanité. Et puis un autre point très important, c'est que cette intelligence, cette volonté, elle suppose une éducation. Alors vraiment, c'est le rôle des parents, c'est le rôle de l'école, parce que il y a des tas d'informations qui nous arrivent comme ça, des sensations, des images, et on a besoin de traiter l'information. Alors, on dit que c'est entre autres un des drames d'Internet, des conséquences très négatives sur des, spécialement des jeunes, c'est que justement ça donne des informations brutes, et le rôle de l'éducation, c'est normalement d'apprendre à hiérarchiser, à critiquer, à utiliser notre raison pour ne pas mettre tout sur le même plan. Mais effectivement, avec Internet, encore une fois, tout vous arrive, soit de manière non hiérarchisée ou hiérarchisés selon une logique qui nous échappe, mais dont le but est surtout éventuellement de nous manipuler, et ben, le rôle de l'intelligence, c'est justement d'être critique, dans le meilleur sens du terme, hein, c'est-à-dire de susciter, de provoquer, d'exercer un discernement. Voilà. Alors, ce qui est vrai d'Internet, c'est-à-dire des connaissances qui peuvent nous arriver comme ça via les écrans, est vrai de toute notre vie. Il y a des tas d'événements qui nous arrivent, eh bien, nous devons chercher à les comprendre pour en saisir la cohérence. Il y a aussi une soif en nous de comprendre, de rationalité qui est fondamentale. Et donc, cela suppose une discipline, un apprentissage, en quelque sorte, pour apprendre son métier d'homme. Alors, on peut apprendre des choses très, très spécifiques, très professionnelles, mais je dirais que le but général de l'éducation, que l'on veut transmettre à ses parents, à ses élèves, à ceux dont nous avons la charge, eh bien, c'est justement de savoir hériter pour un certain nombre de valeurs, un certain nombre de critères, pour les faire sien ou pour aussi y renoncer. Mais on est toujours, ça fait partie des conditionnements, il y a toujours ce discernement à avoir. Depuis notre prime enfance, nous avons été soumis à des tas de conditionnements. Il y a des conditionnements positifs, et ceux-là, il faut les garder. Puis il y a pu avoir aussi des conditionnements négatifs qu'il faut savoir repérer et éventuellement y renoncer. Et quel est le point d'aboutissement de tout ça ? C'est la liberté. C'est-à-dire la capacité à faire le bien pour accomplir notre vocation. Parce que si nous sommes déterminés par le bien infini, mais là le terme déterminé est effectivement un peu ambigu, c'est-à-dire qu'en fait, dépendant de l'infini, nous sommes libres par rapport à tout le reste. Alors que si nous refusons absolument l'infini, eh bien nous risquons fort de devenir esclaves de choses limitées, de choses créées qui ne nous valent pas. Mais le fait de dépendre de l'infini, c'est-à-dire de Dieu lui-même, eh bien nous assure comme une véritable liberté par rapport à tout le reste, parce que tout le reste, ce sont des chemins possibles pour accomplir pour atteindre ce bien universel. Saint Thomas d'Aquin dit « L'amour est le premier acte de la volonté ». Autrement dit, qu'est-ce qui met en branle notre volonté ? C'est bien cet appétit et ce désir du bien tel qu'il nous apparaît. Alors, vous allez dire « Oui, mais ça, c'est très beau de voir ce développement génétique, on va dire, de l'homme depuis sa conception et qui doit s'épanouir normalement dans la vie éternelle ». Mais il y a quand même une réalité, vos métiers respectifs le prouvent, mais qui s'appelle le péché, qui est le mal. Alors, quelle est la réalité du péché dans nos vies ? Alors, certes, ce dynamisme a été perturbé, mais il n'a pas été supprimé. C'est-à-dire que l'homme, même pécheur, même marqué par le péché, a toujours ce désir du bien. Si je puis dire, dans le péché, il n'y a jamais de pure négativité. Il n'y a jamais que de pure négativité. Si on fait le mal, c'est parce qu'on estime que dans le mal que l'on fait, il y a quand même un certain bien pour nous. Même si on sait très bien que ce n'est pas raisonnable. Hein, par exemple, on va voler, on sait que ce n'est pas bien, mais on estime que dans cette circonstance-là, c'est quand même mieux pour nous de voler que de ne pas voler. Bon. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais le mal pour le mal. Parce que le mal est pure négativité. Alors, c'est une réflexion un peu métaphysique, mais qu'on peut tout à fait saisir. Il y a toujours, dans le comportement même le plus dépravé, le plus abîmé, une certaine recherche de bien. De même que notre intelligence ne peut pas adhérer à quelque chose qu'elle sait faux. Que 2 et 2 font 4, ça, il n'y a pas de problème. Si vous commencez à dire que 2 et 2 font 5, ou bien c'est que vous êtes psychiatriquement malade, ou alors c'est que vous voulez tromper les gens. Mais au fond de vous-même, il y a en vous cette certitude que 2 et 2, ça fait bien 4. Vous voyez, pour la volonté, c'est la même chose. C'est-à-dire, je ne peux pas faire quelque chose que je sais absolument et radicalement mal pour tous et pour moi.
Il y a bien des personnes qui font le mal pour
eux. Non, je ne pense pas. Oui, mais parce qu'ils estiment que c'est bien pour eux, pour elles. Alors, il peut y avoir une espèce de romantisme, il peut y avoir le prince noir. Oui, alors oui, mais ils estiment quand même que pour eux, c'est bien. Pour eux, c'est un chemin de liberté, ou que sais-je encore. Ils peuvent se tromper. De fait, ils se trompent complètement. Mais, encore une fois, vous ne pouvez pas choisir quelque chose que vous savez absolument mauvais. Il y a toujours Par exemple, c'est l'intérêt. Ça va être très souvent. Pourquoi on est malhonnête ? Parce qu'en étant malhonnête, eh bien, on sait qu'on va pouvoir gagner plus d'argent. Encore une fois, c'est tout à fait négatif, mais c'est que quand même dans cette action-là, j'estime que pour moi, il est meilleur d'employer des moyens malhonnêtes pour obtenir plus d'argent. Voilà. Alors, c'est pas du tout. Je ne tiens pas du tout à un discours laxiste, mais c'est simplement pour nous éclairer sur le dynamisme même. De l'intelligence et de la volonté. C'est que la volonté ne va pas se tromper jusqu'à choisir volontairement ce qu'elle sait être un mal, ce qu'elle perçoit comme un mal.
Il y a des gens qui se suicident, c'est vrai ?
Oui, mais alors ça c'est la phrase de Pascal, hein. Tous les gens désirent le bonheur jusqu'à celui qui va se pendre. Celui qui va se suicider, il estime que la situation est tellement épouvantable pour lui que la seule issue, mais donc ça représente un certain bien pour lui, est de mettre fin à ses jours. J'ai suivi quelques soldats en syndrome post-traumatique, dont un ou deux qui ont fait une tentative de suicide. Et justement, je les interrogeais. Je dis, au moment où tu as failli poser ce geste-là, est-ce que tu as pensé au tien ? Il m'a dit oui, mais il y a une sorte de déconnexion de l'affectivité qui fait qu'on est complètement omnubilé par son problème, par sa souffrance, et qu'il semble en effet que la seule issue, ce soit la mort. Mais qu'est-ce qu'on recherche à ce moment-là ? C'est un soulagement. Hein, et ça, c'est, si je puis dire, c'est positif entre guillemets, hein, c'est de ne plus souffrir. Voilà, alors c'est des cas qu'on doit appréhender d'une manière d'abord médicale. Et, donc il existe hein, des moyens, mais après, il y a aussi une prise en charge psychologique à plus long terme et aussi une prise en charge spirituelle que normalement des médecins intègrent, même s'ils ne comprennent pas toujours, mais. Voilà, mais il ne faut pas mélanger les baratins, hein, parce que Mais l'être humain est quand même un tout. Et parfois, on peut être très surpris de gens qui sont tout à fait chrétiens et tout ce que l'on veut, et qui font aussi une tentative de suicide. Comme disait, alors de manière moins dramatique, mais le père André, que tu as peut-être connu, qui était un super général pendant 30 ans, qui est décédé en 92, je crois, hein, il disait c'est pas parce que vous êtes chrétien que vous ne ferez pas une dépression. Mais parce que vous êtes chrétien, vous la ferez autrement. Je trouve que c'est assez bien vu. Hein, voilà. Est-ce que ça répond à vos...
Moi, j'avais vu un reportage de Denis Lucet sur la pédocriminalité de réseau. Et il y a eu des témoignages qui, pour moi, où là, j'ai vraiment vu qu'il y a des gens qui faisaient le mal pour le mal.
Oui, alors, c'est sûr. Alors, encore une fois, je ne veux pas du tout limiter, encore une fois, dans le contexte actuel, si je puis dire, encore moins. Il y a un endurcissement. Alors après, il y a un endurcissement. Il peut aussi y avoir un démultiplicateur, soit idéologique, soit satanique. Hein, c'est tout à fait possible. Mais il y a quand même, encore une fois, celui qui a accompli ses crimes et ses forfaits, il estime que c'est mieux pour lui de les accomplir que de ne pas les accomplir. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a quand même... Il en tire un certain avantage. Il se plante complètement, il se détruit lui-même, il détruit. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai que, encore une fois, on est. Alors peut-être aussi parce que on est aussi très marqué par une espèce d'optimisme humaniste dans le sens, mais dans un autre sens que celui que j'ai dégagé hier, et que en gros tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, enfin tout le monde est appelé à faire le bien, et puis on découvre, surtout dans nos sociétés qui n'ont plus trop de moyens de se défendre, ni tellement toujours d'enracinement et de ressources spirituelles, pour le coup, quand on est confronté à ce qui peut apparaître comme un mal absolu, comme le terrorisme, comme la pédocriminalité, comme tout ça, pour le coup, on est complètement déboussolé. Dans la perspective chrétienne, on dira, oui, ce sera d'ailleurs la lecture de la messe de demain, mais c'est peut-être ça, la lecture biblique de la messe de demain. Le Christ nous a vraiment sauvés d'une situation de mort, de haine et de péché. Et si on, d'une certaine façon, on ne fait pas l'expérience, on ne prend pas conscience de ça, d'une certaine façon, on ne peut pas être sauvé. Il faut prendre conscience de la réalité, je dirais, c'est le saint en prend d'autant plus, parce que le saint est confronté au mal et est particulièrement sensible au mal, c'est-à-dire au manque d'amour, et il faut aussi avoir mesuré les conséquences en nous du péché, que nous avons vraiment et radicalement besoin d'être sauvés. Que le Christ n'est pas simplement un exemple qu'il faudrait suivre pour améliorer notre humanité, mais qu'il vient nous sauver à la racine même de notre liberté. C'est ça aussi ce que fait la grâce. Mais c'est vrai que voilà, je pense que les crises successives nous sortent, nous réveillent d'une certaine naïveté, hein, bon, qui manifeste aussi, on va dire, une générosité. Mais on sait que l'homme peut être méchant. C'est l'existence de la présence du mal. Et c'est... Je peux continuer ?
Oui.
D'accord. Justement, je continue sur le péché. Voilà, c'est-à-dire que le péché, c'est essentiellement qu'on va se planter à propos des moyens à prendre. C'est qu'on va être heureux, mais par d'autres moyens. Alors là, il suffit simplement de reprendre le texte de la création, dans la Bible, le livre de la Genèse, où la création sort bonne des mains de Dieu, puisque à toutes les étapes de la création, enfin du premier essai de la création, on voit Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était bon. Et donc il créa, alors pour le coup il créa l'homme, mâle et femelle, il les créa à son image et à sa ressemblance. Autrement dit, c'est la complémentarité de l'homme et de la femme qui est à l'image de Dieu. Alors vous connaissez les étapes de ce récit, hein, qui est un récit non pas historique, mais qui nous donne la signification de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, il y a deux vérités de foi fondamentales, c'est que l'homme a été créé et a été voulu par Dieu. Alors que cette création soit le fruit d'une action immédiate, ou plutôt, comme nous semble nous le dire la science, le fruit d'une très très longue et lente évolution, mais il n'empêche qu'à un certain moment est apparue l'humanité. Entre le chimpanzé un peu amélioré et puis l'être humain, il y a eu un saut qualitatif, dont on peut essayer de repérer, que l'archéologie essaye de repérer, mais il y a cette vérité de... Oui, c'est à la fois cette vérité de foi, mais qui semble assez confirmée par la science, c'est que voilà, l'apparition quand même de la vie humaine est un événement depuis le Big Bang, on va dire hautement improbable, et pourtant qui s'est réalisé. Et que l'homme, et ça on ne pourra jamais le prouver, parce que c'est une vérité de foi, a été créé en grâce, et qu'à un certain moment, il y a eu une cassure entre Dieu et l'homme, de l'initiative même de l'homme. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le dogme du péché originel, mais et ça, encore une fois, qu'on ne pourra jamais prouver, mais qui est quand même, voilà, comme dit Blaise Pascal, hein, sans cet inexplicable mystère, nous sommes à nous-mêmes inexplicables. C'est que, voilà, sans le dogme du péché originel, ben c'est vrai qu'on ne comprend pas trop la situation dans laquelle nous nous trouvons, et au contraire, le fait de nier absolument le péché originel peut conduire à des catastrophes, parce que ce n'est pas prendre au sérieux la condition de l'homme, qui est aussi d'être pécheur. En tout cas, dans le récit de la Genèse, ce qui nous est signifié, alors vous connaissez tous les grands événements, donc Dieu place l'homme et la femme dans le paradis terrestre, et il lui dit, et il leur donne, tu peux manger de tous les arbres, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est aussi l'arbre de vie. Alors, les exégètes se disputent pour savoir est-ce qu'il y a deux arbres, est-ce qu'il y en a qu'un, je dirais. Peu importe. Bon. Et puis le démon s'adresse, sous la forme du serpent, le démon s'adresse à la femme et il lui dit « Dieu vous a interdit de manger de tous les arbres ». Et donc c'est très intéressant parce qu'il intervient dans le destin humain en mentant. Voilà pourquoi Jésus, dans l'évangile selon saint Jean, dit du démon « Il est le menteur dès l'origine ». Et Ève, bonne fille, si je puis dire, non, pour le garçon, il se trompe, c'est pas... Non, pas de tous les arbres, simplement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire d'être, en fait, à la source, justement, des choix moraux, être à l'origine des choix moraux, ce qui est réservé à Dieu seul, de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Bon. Et là, le démon dit, mais enfin, vous n'avez rien compris. Dieu sait très bien que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui, vous serez comme des dieux. Et là, il est très malin, parce qu'il s'appuie sur un vrai désir, justement, de l'homme et de la femme, c'est le désir d'être heureux. Être comme des dieux, c'est être heureux. Et c'était en plus vraiment le dessein de Dieu. C'est-à-dire Dieu a créé l'homme pour le faire participer à sa propre vie. Et qu'est-ce que va faire le démon ? C'est de mettre dans le cœur de l'homme la défiance à l'égard de Dieu. Au fond, ce qu'il dit à Adam et à Ève, au fond, Dieu ne veut pas vraiment votre bonheur. Il vous a dit ça, mais il avait une autre idée en tête. Et à partir du moment où la défiance est entrée dans le cœur de l'homme, eh bien, le démon a gagné. Et on peut dire que tout le reste de la révélation biblique, hein, c'est-à-dire depuis ce chapitre 3, enfin 2 et 3 de la Genèse, jusqu'au dernier verset du dernier livre de la Bible, c'est-à-dire le dernier verset de l'Apocalypse, eh bien, c'est Dieu qui va réparer en quelque sorte, qui va apprendre à l'homme à ne pas avoir peur de Dieu. C'est en quelque sorte la contre-offensive. Hein, s'il fallait diviser la Bible, on pourrait dire qu'il y a trois grandes parties. Première partie, la création. Deuxième partie, la chute. Troisième partie, la rédemption. Et vous voyez que la Bible, c'est surtout une affaire de rédemption. Et avec cette parole assez mystérieuse, d'ailleurs, c'est très intéressant aussi de voir que Dieu continue à s'adresser à la liberté de l'homme et de la femme, puisqu'à chaque fois, il dit à l'homme et à la femme, pourquoi ? Pourquoi as-tu fait ça ? Et les malédictions qui viennent, que nous connaissons tous, pour l'homme, tu gagneras le pain à la sueur de ton front. À la femme, c'est dans la douleur que tu enfanteras. C'est pas, vous avez fait ça, alors pas, vous allez prendre un grand coup, c'est bien fait. C'est les conséquences du choix malheureux que vous avez fait. Et vous mourrez. C'est-à-dire que cette vie sur terre, pour vous, aura un terme, puisque l'homme avait été créé dans l'immortalité. Pour le démon, les malédictions, elles tombent tout de suite. Dieu ne lui dit pas pourquoi. Et il y a cette parole, verset 13 du chapitre 3, 13 ou 15, je crois, et cette parole très mystérieuse, hein, je mettrai en s'adressant au démon, enfin au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, elle t'écrasera la tête, mais tu la blesseras au talon. Et donc, dans la perspective chrétienne, on voit là, comme on appelle ça, le protévangile, c'est-à-dire comme une annonce déjà lointaine de l'évangile et de la victoire du Christ, fils de la Vierge Marie. Et c'est pour ça que je dis qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on est sûr que c'est pas le péché qui sera... Le péché à la fois va provoquer des catastrophes, mais c'est pas lui qui aura le dernier mot. Voilà, c'est comme ça qu'on peut, dans la Bible, qui est un livre très, très divers, enfin, il y a des récits historiques, il y a des oracles prophétiques, il y a des sociétés, et puis c'est pas toujours très moral, enfin, il y a du sang, il y a des meurtres, il y a des choses horribles dans la Bible, c'est-à-dire qu'on prend l'humanité au sérieux, mais dans cette histoire-là, il y a la grâce de Dieu qui agit, il y a l'action de Dieu qui se manifeste pour nous sauver, Dieu qui met tout en œuvre pour nous sauver. Dans notre profession de foi, nous disons pour nous les hommes et pour notre salut. Et ça vaut pour après tout ce qui est dit. Hein, c'est-à-dire la venue du Christ dans la chair, mais qui a été annoncée et préparée dès le premier péché de nos parents. Donc vous voyez à la fois comment Dieu nous fait assumer les conséquences du péché, et qui ne sont pas minces, mais qui nous offre toujours un salut possible. Voilà. Eh bien, Et donc le premier combat peut-être de la spiritualité chrétienne, c'est de lutter contre cette défiance, si je puis dire, spontanée, mais d'une spontanéité qui est malheureuse, à l'égard de Dieu. Autrement dit, Dieu va tout mettre en œuvre pour nous sauver. Même lui a choisi le chemin le plus... Bon, il aurait pu nous sauver comme ça. Un coup de baguette magique. Nous sauver, c'est pas beaucoup plus compliqué que de nous créer. Mais il a voulu, et là c'est très mystérieux, mais il a voulu prendre, y compris pour lui, si je puis dire, le chemin le plus onéreux, pour manifester aussi combien il attache du prix à notre salut. Et donc je dirais que la peur à l'égard de Dieu, de sa volonté, hein, c'est vraiment le péché originel, qui est amplifié beaucoup d'ailleurs par la culture moderne. C'est que, alors ça pour des raisons aussi d'histoire de la pensée, mais il y a eu une telle importance mise sur la volonté, on a tellement voulu amplifier la liberté et d'en faire un absolu, et bien que, en quelque sorte, la liberté de Dieu se trouve en concurrence par rapport à la liberté de l'homme. Et donc, c'est vu comme, au fond, ce qui est donné à Dieu est enlevé à l'homme et réciproquement. Je ne sais pas si vous connaissez le film Amadeus, 84-85 de Miloš Forman, c'est un film qu'il faut voir, mais c'est exactement cette problématique-là. Comment, justement, une fausse image de Dieu fait qu'on adopte un comportement complètement aberrant. Alors nous aboutissons un petit peu à la situation du monde moderne, hein, où il y a comme une survalorisation des moyens et qu'on oublie la fin. Hein, c'est-à-dire qu'on veut d'être le plus heureux possible durant ce temps sur Terre, hein, qui au maximum dure à peu près 120 ans, hein, d'après les médecins et les biologistes, enfin, même si on obtient une, si je puis dire, durable et une augmentation. Donc il s'agit d'exprimer toutes nos potentialités, au maximum d'écarter la mort et la maladie. Mais justement, la question du pourquoi, en vue de quoi on fait tout ça, Voilà, est-ce que c'est de survivre le plus longtemps possible? Si c'est pour venir d'un néant et aboutir à un néant, ça n'a pas grand sens, hein, dans le sens littéral du terme. C'est déjà ce que disait Georges Bernanos, quand il s'adresse au monde moderne, mais que vous servirez de fabriquer la vie même, si vous avez perdu le sens de la vie. Donc, c'est un peu la situation qu'on connaît aujourd'hui. Vous n'auriez plus qu'à vous faire sauter la cervelle devant vos cornues, hein, dans vos laboratoires. Oui, mais que vous servirez de fabriquer la vie même si vous avez perdu le sens de la vie? Vous n'auriez plus qu'à vous faire sauter la cervelle devant vos cornues. Et c'est vrai qu'il y a aussi, dans la philosophie contemporaine, enfin, il commence aussi un petit peu à vieillir, mais la liberté comme absolue, mais justement dont on ne sait pas quoi faire. C'est nous-mêmes qui nous fabriquons notre projet. C'est ce que disait Jean-Paul Sartre, il disait « je suis mon projet », pas du verbe « suivre », ça c'est encore, mais du verbe « être ». « Je suis mon projet ». Le problème, c'est que si notre projet est à l'image de nous-mêmes, ça risque fort d'être assez médiocre. Si le projet nous est donné par un autre, et s'il nous donne les moyens de l'accomplir, là, c'est quand même mieux. Et donc, il y a souvent une violence très grande à l'égard du réel, c'est-à-dire je décide de tout, je décide de mon identité, y compris de mon identité sexuelle, de mon genre, voilà, ça a des racines. Alors, ça traduit par ailleurs certainement un malaise, mais il y a comme un refus de la réalité dans le volontarisme moderne qui peut être très dangereux. De laisser imaginer à des enfants qu'ils peuvent être tout, non, c'est pas vrai. Et justement, la liberté, ça consiste non pas à m'imaginer un monde qui n'arrive pas, mais de savoir utiliser au mieux, avec intelligence, grâce à la vertu qui sera étudiée au cours de cette année, mais la vertu de prudence, justement, de sagesse pratique, qui nous fait tenir compte de ce qui est, de ce que nous avons à notre disposition pour en tirer le meilleur profit. C'est ça la liberté. Voilà. Librement, je peux décider d'être suédois, de mesurer 1m90 et d'avoir des yeux bleus. Je peux trépigner autant que je veux, je n'y arriverai pas. Le mieux, c'est, encore une fois, de tirer le meilleur parti de ce que le bon Dieu a mis à ma disposition.
Est-ce que je peux poser une question avant que tu poursuives? Parce que tout à l'heure, je viens de revenir un peu en arrière, mais est-ce que tu peux développer un petit peu, peut-être, quand tu dis que c'est la complémentarité de l'homme et de la femme qui était à l'image de Dieu?
Oui.
La conseil complémentaire. Oui. On dit... moi, j'ai toujours dit principalement que c'est l'homme ou la femme, enfin, est à l'image de Dieu par son intelligence et, oui. Et sa volonté. Comment le fait de dire que l'homme et la femme, dans leur complémentarité, seraient l'image de Dieu, ça amène toujours à dire, mais alors si je suis seul en tant qu'homme et ou seul en tant que femme, je ne suis pas à l'image de Dieu. Tu vois,
oui.
Les
deux approches ne sont pas du tout contradictoires. Alors effectivement, l'homme est à l'image de Dieu parce que il est intelligence et volonté. Alors, d'après les exégètes, l'homme est à l'image et à la ressemblance. Image, ça insiste sur la similitude. À la ressemblance, ça marque plutôt une distance de la créature par rapport au créateur. Spécialement chez les pères de l'Église et les pères grecs, eux vont dire, on garde l'image, on reste à l'image de Dieu, mais le péché a abîmé en nous la ressemblance. Et donc, tout le but de notre vie, c'est de rétablir en nous, par la grâce, la ressemblance avec Dieu, qui est rendue possible en Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, en tant qu'être humain, humain, et ayant une nature humaine, a été créé. Et donc, il nous montre le chemin pour parvenir de nouveau, pour rétablir le nouvel Adam, et donc cette ressemblance est rétablie. Maintenant, dans le texte lui-même, on dit bien mâle il les créa, homme il les créa, mâle et femelle il les créa à son image et à sa ressemblance. Ça veut donc dire qu'il y a une certaine analogie entre cette communauté d'amour que constituent l'homme et la femme et le mystère de Dieu. Alors effectivement, d'abord parce que dans la première épître de Saint Jean, il nous est révélé que Dieu est amour. Or, l'amour suppose une communion, une rencontre. Et justement, le couple renvoie à cette image d'une fécondité de l'amour. qui s'incarne, si je puis dire, c'est le cas de le dire, dans l'enfant. Alors, évidemment, la grande différence, c'est que dans un couple qui a un enfant, ben, on a trois enfants, mais que ces trois personnes, pardon, mais ces trois personnes ne font pas un. Voilà, c'est ça, là. Donc, c'est une analogie. Dans une analogie, il y a toujours plus de différence que de ressemblance. Mais, en tout cas, ce que nous révèle, et c'est ce qu'on dit spécialement, justement, aux fiancés qu'on prépare au mariage, mais c'est qu'il est dans la nature même de l'amour d'être fécond. Et quand on est célibataire, qu'on ait choisi le célibat ou que les circonstances de la vie vous l'ont imposé, on est appelé à une autre fécondité que celle, justement, pour rappeler qu'on n'est pas simplement appelé à avoir des enfants, à se survivre, pour le coup, en tant qu'espèce. Soit en vue du royaume, c'est-à-dire déjà pour témoigner de l'amour dont on s'aimera au ciel, qui ne sera plus un amour sexué, soit aussi pour permettre un dévouement plus grand au service de l'Église. Alors c'est un peu de note. Les religieux et les prêtres diocésains font tous les deux, enfin voilà, vivent tous les deux dans la continence. On va dire que c'est des différences d'accent un peu différentes. On va dire que le religieux, lui, se consacre totalement à Dieu pour manifester que la relation à Dieu peut remplir une vie dans toutes ses dimensions. Le prêtre diocésain, ce sera plutôt, pour reprendre l'expression de Jean-Paul II, hein, le prêtre c'est celui qui accepte d'être seul pour que les autres ne le soient plus. Donc c'est plus peut-être le service du peuple de Dieu mais c'est une différence d'accent. Il y a aussi d'autres textes de l'Église où on dit bien que les prêtres choisissent le célibat en vue du royaume. Mais voilà, pour signifier que l'amour est toujours fécond. Alors il y a une fécondité, je dirais, immédiate et visible, et qui est celle d'avoir des enfants, mais qu'on peut être appelé aussi à une autre fécondité, à un autre rayonnement. Voilà. Alors je crois en avoir... oui, voilà. Donc il est très important de prendre compte de cette réalité du péché, tout en sachant qu'il y a la présence du mal. Hein, et c'est ça aussi peut-être le ce qui peut nous étonner, si je puis dire, quand on regarde le XXe siècle, mais de voir que le siècle qui a proclamé ou qui a voulu mettre en œuvre les droits de l'homme, etc., là, qui a beaucoup souligné la dignité de la personne humaine, a été celle aussi qui a vu les plus grands massacres. Génocide, Shoah, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, etc. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, justement, au service de cette pulsion de mort qu'il y a dans l'homme, eh bien... qu'est-ce qu'on a instrumentalisé? Ça a été le progrès technique. Alors qu'on pensait que le progrès allait permettre une amélioration de la condition de l'homme, c'est comme ça que normalement ça fonctionne, eh bien on s'est rendu compte que les étonnantes ressources de la technique ont permis aussi un asservissement avec la programmation du massacre de tas de peuples à cause de leur religion, à cause de leur origine, à cause de que ça vous parce que tout simplement ils sont perçus comme des ennemis, des sous-hommes. Hein, eh bien, on va tout mettre en œuvre et cette fois, voilà, autant de la préhistoire. Bon, si vous vous énerviez un peu, vous preniez votre hache de pierre, vous alliez fracasser le crâne du voisin, et puis en général, on vous maîtrisait, et ça s'arrêtait à peu près là. Le problème, c'est que maintenant, si vous êtes aussi pris d'une pulsion comme ça de meurtre ou de mort, et que vous ayez à votre disposition le bouton atomique, ça n'a pas tout à fait les mêmes conséquences. Voilà. Donc, encore une fois, le progrès scientifique est neutre, il permet même des choses merveilleuses et extraordinaires, mais il n'empêche que celui qui est qui peut l'actionner, reste soumis, lui, à cette loi de la mort, que Saint Paul définit assez bien dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, lorsqu'il parle « Malheureux homme que je suis, le mal que je vois, je ne voudrais pas le faire, je le fais, et le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. » C'est qu'il y a encore une fois, en l'homme, cette paralysie, alors pas à tous les coups, parce que sinon on dirait que l'homme n'est pas libre, mais que, de manière constante, l'homme n'est pas capable de s'établir dans le bien. Et c'est ce que nous appelons les conséquences du péché en nous. Alors, quels sont les moyens d'en sortir? C'est mon troisième grand point. C'est les vertus, justement, comme moyen d'accomplir notre vocation. Alors, je vous ai dit, dans le catéchisme de l'Église catholique, au moment où il a été élaboré, donc sous l'impulsion de Saint Jean-Paul II, qui a confié donc la rédaction du catéchisme à une équipe d'évêques, Et après, il a consulté l'ensemble des évêques du monde entier, mais il y a eu un comité de rédaction, je crois, de 7 évêques. Et il y a eu effectivement un débat, quand on a abordé la question de la morale, pour savoir s'il fallait présenter la morale plutôt à partir des 10 commandements ou plutôt à partir des vertus. Alors il y a une solution mixte qui a été trouvée, c'est que matériellement, on a quand même préféré, pour des tas de raisons, y compris des raisons liées à l'histoire de l'Église, que, par exemple, aux catéchumènes, ceux qui se préparaient au baptême, on leur présentait les 10 commandements. Voilà. Tu veux être chrétien, si tu veux être catéchumène adulte, hein, j'entends. Si tu veux être chrétien, voilà comment le chrétien doit se comporter. Avec la grâce de Dieu, mais voilà quel est le comportement du chrétien. Mais toutes ces... Et puis, le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme romain, hein, qui a été élaboré à la sortie du Concile de Trente, dans les années 1560, eh bien, lui-même présente la partie morale du catéchisme à partir d'une étude des 10 commandements. Donc, détaille les 10 commandements. Mais toute cette partie-là est préfacée par une grande introduction qui présente justement la vocation de l'homme, hein, qui est la vie selon l'Esprit. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on l'a mis avec un petit « e » dans le catéchisme, mais c'est non, la vie selon l'Esprit-Saint. À partir du moment où on est baptisé, où on est confirmé, on reçoit la plénitude du Saint-Esprit, et c'est ce Saint-Esprit qui en nous va agir pour nous permettre d'accomplir les commandements du Seigneur. C'est ça la logique. Alors je vous présente rapidement les différents chapitres, hein, qu'il y a dans cette grande introduction. D'abord donc la dignité de la personne humaine, et c'est justement sur cette partie-là que je vais revenir. Alors notre vocation à la béatitude, c'est des thèmes qu'on a déjà vus, la liberté de l'homme, la moralité des actes humains, la moralité des passions, et puis la conscience morale, la vertu et le péché. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui permet à l'homme d'agir. La deuxième partie, c'est la communauté humaine, hein, c'est-à-dire que l'homme, comme disait déjà le vieil Aristote, hein, l'homme est un animal politique. L'homme est fait pour s'intégrer dans une communauté humaine. C'est certes un individu, mais c'est aussi une personne qui est appelée à s'intégrer dans un ensemble plus vaste qu'on appelle une communauté. La première communauté étant sa famille, mais c'est son village, sa ville, sa nation, hein, et ultimement la communauté humaine. Mais il y a ces appartenances, en fait, qui permettent à l'homme de s'humaniser. Si, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand l'homme est pure potentialité, c'est exactement ce que je voulais dire ça. Si cette potentialité n'est pas éduquée, n'est pas excitée, elle reste pure potentialité. Alors, un exemple type, c'est le langage. Alors, tout spontanément, on a cette capacité, et ça, peu importe notre origine. On peut par exemple avoir des parents chinois, hein, mais un enfant né de parents chinois, mais qui est en Occident, parlera parfaitement français. Parce qu'il a en lui cette capacité du langage, qui est une capacité extrêmement souple. Si cette capacité, vous connaissez tous l'histoire de Mowgli, hein, qui est une histoire vraie, il y a aussi le film de Vincent ou la vie sauvage, qui est une histoire vraie. C'est un enfant loup, hein, qu'on a retrouvé à l'âge de 10-11 ans, au 17e ou 18e siècle, je ne me rappelle plus, 18e siècle, je crois. Et on s'est rendu compte que il se trouve que voilà, c'est un enfant qui a été abandonné, qui a réussi à survivre dans un milieu où il n'a été en contact avec aucun être humain. Sa première rencontre avec la communauté humaine, ça a été à l'âge de 10-11 ans. Eh bien, on n'a jamais pu lui apprendre à parler. Parce que, c'est cette capacité en lui du langage n'a jamais été éduquée, n'a jamais été excitée. Donc, c'est comme un membre. Si on ne se sert pas de son bras, au bout d'un certain temps, il va être inerte. Puis si on ne s'en sert plus du tout, ça va être un membre mort.
Est-ce que c'est vrai aussi pour la religiosité ?
Alors ça, c'est une autre question. C'est-à-dire qu'effectivement, alors, si on prend la religion comme une vertu, effectivement, quelqu'un à qui on ne parle jamais... Alors, Dieu peut toujours intervenir de manière un peu charismatique, si je puis dire, et miraculeuse, et c'est arrivé. Mais c'est vrai que tout homme est naturellement religieux, hein, c'est-à-dire qu'il se sent relié à l'infini. Et si cette capacité-là n'est jamais excitée, mais au contraire, elle est étouffée par le matérialisme, par l'individualisme, ne te pose jamais ces questions-là, eh bien, ça va être compliqué. Alors, il peut encore une fois y avoir une grâce de conversion. Mais, si vous voulez, en tout cas, si je puis dire, le milieu n'aide pas. Et ça, c'est un peu la situation de la société aujourd'hui. C'est-à-dire que le totalitarisme, c'est quoi ? C'est imposer à tout le monde la même finalité. Le libéralisme, c'est tout est possible, mais on a enlevé à l'homme sa profondeur et sa capacité de discerner. Donc tout est possible, y compris la vérité. Mais là encore, bon, pour moi, on a peut-être compris, mais un de ceux qui a été le plus lucide sur l'évolution, enfin, il y a eu deux écrivains catholiques qui ont été particulièrement lucides sur ce qu'on appelle la modernité, hein, c'est Charles Péguy et Georges Bernanos. Et Georges Bernanos disait, hein, je crois que c'est dans le journal La Curée de Campagne, les gens ont fait à l'égard du surnaturel les serments des temps de peste, y penser le moins possible et n'en parler jamais. Donc il y a comme une éradication de voilà, ne vous posez pas de questions parce que de toute façon on n'a pas la réponse. Mais justement, si cette question se pose, enfin, il est toujours plus raisonnable de penser qu'à une question qui existe une réponse. C'est, paradoxalement, c'est dans le désert qu'on ne peut pas douter de l'existence de l'eau. Vous pouvez vous remplir la bouche de sable en vous disant ça me désaltère, ça n'a rien du tout. Voilà un petit peu comment ça, si je puis dire, comment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il y a un climat général, et on le voit bien, qui pousse à ne plus oser se poser ces questions-là. C'est ce que je disais à mon petit groupe de jeunes, là, hier, dont je vous ai parlé, où je leur dis, voyez, la victoire du monde, c'est de vous donner honte de votre désir d'être heureux. Alors après, comment il faut agir dans ces circonstances-là, ça c'est le... Je crois qu'il y a aussi, pour le coup, une pluralité de méthodes, hein, et de méthodes d'apostolat, et suivant aussi la ligne de chacun et de sa vocation. Mais en tout cas, sur la finalité, il faut qu'on soit bien, bien tous d'accord.
Vous avez dit totalitarisme, libéralisme. Il y a des écrivains, des auteurs catholiques qui disent que le catholicisme est libéral. Il y a d'autres anti-catholiques qui veulent dire que le catholicisme est plutôt totalitaire.
Que le catholicisme est plutôt...
totalitaire, finalement, parce que par le désir d'évangéliser, de dire que Dieu existe sous ces formes-là, et que c'est comme ça qu'il faut envisager le bonheur, ça peut être aussi une forme totalitariste, si ça devient extrême, si ça devient...
Alors, il y a toujours, par rapport aux moyens à employer, hein, l'Église a toujours défendu ce qu'on appelle la liberté de l'acte de foi. Hein, c'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à croire. C'est bien évident. Mais on peut constater, dans le cadre, par exemple, d'une société chrétienne, que les valeurs qui sont transmises font que justement cette liberté est comme aidée parce que les choix positifs qu'on fait nos propres parents, nous sommes invités nous-mêmes à les faire.
Ça se rapproche plus du libéralisme finalement, c'est que le libéralisme, quand vous avez dit que c'était quelque chose qui donnait le choix, que tout était possible et que du coup ça nivelait vers le bas, si j'ai compris.
Disons que le risque du libéralisme, oui,
c'est pas sa raison, comme vous dites.
Non, c'est
aussi, c'est-à-dire que le libéralisme tend forcément, en fait, si on est dans une société libérale, nécessairement tout le monde va tendre vers le catholicisme, puisque c'est la
spontanément
raison, c'est la vérité.
Oui, alors justement, mais le risque de la société libérale, alors, bon, par ailleurs, attention, on est tous très heureux, comme disait je ne sais plus qui, l'avantage de nos sociétés, c'est quand on est réveillé à 6h du matin, c'est le laitier qui passe. Hein, c'est pas la police qui vient de manière... Ou, en tout cas, on peut penser que la police n'intervient que dans un cadre légal et pour défendre les libertés. On ne voit pas du tout, nier ça. Mais le risque de nos sociétés libérales, c'est effectivement d'oublier le critère de la vérité. Et alors, il y a des tas de raisons historiques. Hein. On comprend très bien, par exemple, que notre histoire a aussi été traumatisée par les conflits religieux et que les gouvernants aient cherché déjà depuis Henri IV à préserver une certaine paix. Mais le reproche effectivement que l'on a fait à Henri IV, c'était de sacrifier la vérité du catholicisme. Alors lui-même, ayant été protestant, d'ailleurs, ayant fait plusieurs allers-retours, on comprend bien. Mais encore une fois, il faut rendre compte de son intention, qui était de dire bon, écoutez, on va essayer. C'est toujours un peu ennuyeux de se diviser et de se taper dessus à cause de l'Évangile. Et puis ensuite, comment peut-on assurer, par le principe de tolérance, une vraie coexistence pacifique? Bon, mais le risque de ce genre de société, c'est qu'effectivement, on est poussé à ne plus du tout à se préoccuper des questions dont je viens de parler, quoi. Et après, au nom de quoi, parce qu'après, il y a toujours justement la revendication à la liberté, au nom de quoi on maintient des normes, il y a aussi des principes qui disent, tant que ça ne nuit pas aux autres, etc. Mais est-ce qu'on peut construire une société uniquement là-dessus? Ça, c'est une vraie question. Et la doctrine de l'Église a toujours été de dire, sans contraindre, mais on doit toujours quand même, une société doit toujours se manifester par sa recherche commune de la vérité. Au moins de la vérité, on va dire, qui est atteignable par l'intelligence et la raison humaine, y compris dans ses choix moraux. Alors l'équilibre est difficile à trouver. En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les sociétés libérales, je pense par exemple tout ce qui est du respect de la vie, vont toujours tous un peu dans le même sens. C'est une vraie question aussi qu'il faut se poser. C'est à propos du choix de la vie, de la défense de la vie, et que l'individualisme peut susciter aussi un véritable égoïsme. Quelle est la place du souci de l'autre, comme disait le pape François, de lutter contre une culture du déchet. Enfin, c'est que la valeur de l'homme ne se mesure qu'à ce qu'il peut apporter à la société. Alors qu'en est-il des personnes âgées? Qu'en est-il? Vous voyez, c'est ça un petit peu le danger possible, hein, de l'évolution de nos sociétés libérales. Mais c'est pour moi le point décisif, c'est vraiment quelle est la recherche de la vérité. Donc plus les sociétés se rapprochent de l'Évangile, on va dire mieux c'est, de toute façon. Mais c'est des débats immenses, hein, parce que. Je crois qu'on n'est pas, qu'on n'y arrivera jamais, mais l'Église prend acte de l'évolution de la société, mais après, effectivement, quel modèle elle peut proposer. Maintenant que ce soit parfois, par exemple, dans le sein de famille, proposé de manière maladroite, qui peut paraître comme un carcan, ça c'est psychologique, ça aussi c'est possible. Parce que, lisez par exemple l'œuvre d'un François Mauriac, hein, qui était catholique et confessant, mais voilà, il fait des descriptions de la bonne société bourgeoise catholique qui sont terribles, hein, parce que y compris des meilleures choses, on peut en faire un instrument de corruption optimi pessima, la corruption de ce qui est de meilleur et ce qui est de pire. Donc il y a, encore une fois, le fait d'être chrétien, d'être dans des institutions chrétiennes, etc., ne nous préserve pas du mal et du péché. C'est pour ça qu'il y a toujours ce discernement à avoir. Mais voilà, la question toujours, c'est est-ce que je cherche vraiment la vérité, et est-ce que je me mets vraiment au service des autres pour leur aider eux-mêmes à accomplir leur vocation. Je crois que c'est ça un peu le critère que l'on doit avoir dans la vie professionnelle, dans les responsabilités que l'on a. Je prends un autre exemple, mais celui des parents, père et mère de famille. Hein, quand un gamin fait des bêtises, ben ça va, à 4-5 ans, c'est assez facile de rétablir, de les remettre dans la bonne direction, si je puis dire. À 15-16 ans ou à 24-25 ans, c'est pas évident, parce qu'à fois, il faut s'adresser à leur intelligence. Il y a des limites à mettre, ça c'est évident aussi. Mais voilà, un enfant peut aussi avoir d'autres critères que les nôtres. Et là, je dirais, à part le dialogue, à part l'exemple, à part la prière, évidemment, on ne va pas avoir recours à la contrainte, ce serait absurde. Mais je n'ai pas de recette. Mais il y a quand même un certain nombre d'exigences qu'il faut porter. Mais quant à savoir quand est-ce que c'est opportun de les rappeler et quand est-ce que c'est opportun de se taire, ben là, c'est ce qu'on appelle justement la vertu de prudence. Et voilà, enfin, dans les parents, dans l'éducation, il y a des tas de situations où on ferme les yeux. C'est ce qu'on appelle de supporter le moindre mal. Parfois, on tolère une situation de moindre mal parce que les moyens que l'on voudrait mettre en œuvre pour y remédier pourraient provoquer des conséquences encore plus négatives. Mais ça, le problème, c'est qu'on ne sait jamais trop. Donc, c'est vraiment toujours un peu un pari, et c'est la vertu de prudence. C'est aussi l'importance de se concerter. C'est pour ça que dans tous les cas d'éducation un peu difficile, il y a toujours des équipes. Parce que dans les équipes, dans le monde médical, enfin voilà, il y a des tas de décisions prudentielles à prendre. En revanche, on ne peut jamais faire un mal en vue d'un bien. Ça, c'est, on ne peut jamais faire un acte positif. En tant qu'homme militaire, on est très souvent confronté à la question des guerres justes, de savoir, et même dans une guerre qui pourrait sembler injuste, ce soit une question de point de vue, mais dans une guerre d'invasion, même dans ce cadre-là, on est tenu d'avoir un comportement, alors que de façon reconnue par les lois internationales, les règlements internationaux, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pas simplement parce qu'on manque au règlement, parce que ça, c'est un peu la mentalité des jeunes aujourd'hui. Enfin, pas vu, pas pris. Ce qui est grave, c'est de se faire prendre. Non, c'est de se dire, quand on est, comme disait le père d'Albert Camus, un homme, ça se contient. Il y a des choses qu'on ne doit jamais faire. C'est ce qu'on appelle la théorie des actes intrinsèquement pervers. Mitrailler des enfants, ça, on n'a jamais le droit de le faire, même dans un cas de conflit. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a il y a une critériologie à mettre en œuvre, et après, si je puis dire, on fait ce qu'on peut avec les instruments qu'on a. Mais c'est important d'y avoir réfléchi avant, et puis de savoir aussi pouvoir compter sur la miséricorde de Dieu. Je ne veux pas vous dire « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », c'est pas du tout ça. Mais c'est qu'on est confrontés à des choix humains qui sont toujours des choix limités et risqués. Mais ça, Dieu ne nous en voudra jamais. C'est toute la question de la conscience aussi. Certes, on est responsable devant sa conscience, mais on est responsable aussi de sa conscience, c'est-à-dire de la formation de sa conscience. Et tout ce que l'on fait pour affiner sa conscience, et après adapter le meilleur comportement en adéquation avec les exigences morales de notre conscience, eh bien c'est ainsi qu'on agit en chrétien dans le monde. Retenez aussi qu'il n'y a pas que l'intelligence et la volonté, justement. Les anges, ils ont aussi une intelligence et une volonté. Qu'est-ce que nous avons que les anges n'ont pas ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les passions.